Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Comme d'habitude à la technique et à la réalisation, mon vieux complice Léo et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui Madame Eva Saint-Martin, formatrice et, alors là, je ne sais pas comment on dit, s'il faut dire chercheur ou chercheuse, spécialiste des violences conjugales, de toutes les problématiques des violences conjugales. Elle a commis une excellente thèse sur espace social, public et privé et violences conjugales. Conjugale. Madame Eva Saint-Martin est formatrice à l'Institut du Travail Social Erasme. Madame Eva Saint-Martin, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
On va commencer par cette thèse que vous avez soutenue en 2019 à l'Université de Bordeaux. Excellente thèse, centaines de pages. Et vous avez abordé la question de la violence conjugale et les rapports des femmes aux espaces publics et privés. Est-ce une thèse de sociologie ou est-ce une thèse de géographie humaine ? Et j'ai du mal, en lisant vos travaux, oui, il y a une méthodologie de la géographie. Alors comment vous faites pour vous déterminer dans cette spécialité ?
Merci pour l'invitation. Et pour répondre à cette question, peut-être, j'aurais tendance à dire que je ne me suis pas déterminée à rentrer dans les domaines purement géographiques. Je viens d'un parcours de sociologie. J'ai effectué mes études de sociologie d'abord à l'Université Complutense de Madrid. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études de sociologie à l'université Toulouse-Les Mirailles. Et maintenant, c'est Jean Jaurès. Et quand j'ai eu l'occasion de faire une thèse en géographie, je suis rentrée avec ce que moi j'étais déjà et avec tout mon bagage académique qui était un bagage sociologique. Donc, cette thèse s'est beaucoup nourrie de ses apports sociologiques. Tout en étant effectivement dans les domaines de la géographie, parce que ça reste quand même une thèse en géographie sociale.
Et donc, vous vous êtes occupé d'examiner les violences dans des espaces, donc espace public, espace privé. Alors, quand on parle d'espace public, c'est la place des femmes dans l'espace public, c'est-à-dire la rue, les restaurants.
Les espaces communs. De l'extérieur.
Voilà.
Tout à fait.
Et l'espace dit privé, c'est la demeure, quoi. C'est la maison, c'est l'appartement.
C'est le domicile.
C'est le domicile de la personne, le domicile du couple. Et alors là, on voit de tout, quoi. En lisant votre thèse, j'ai vu qu'il y a de la violence partout.
Ben en fait, la violence est quelque chose de systémique. C'est-à-dire que la violence, ce n'est pas que des actes isolés. La violence, c'est un contexte, c'est une ambiance, c'est un peu les lieux où se déroule la vie quotidienne et ces lieux est composé par des espaces publics et privés. C'est-à-dire que les femmes qui vivent dans un contexte de violence conjugale, ce sont des femmes qui éprouvent cette violence, quel que soit leur espace de vie. Et le fait d'avoir eu cette idée des thèses en géographie, c'est parce que les femmes, quand elles venaient raconter leur vécu, elles faisaient état justement des aspects très géographiques, à savoir, je ne peux pas sortir, je ne peux pas rentrer, et il me prend la tête, mon corps ne m'appartient pas, et je ne me promène pas chez moi, c'est-à-dire que tous ces dires des femmes qui venaient à l'association, faisaient état des éléments purement géographique. Et de là, cette idée de faire une thèse sur les violences dans les domaines de la géographie qui est pour le moment assez, pour l'instant, assez rare.
Voilà, géographie humaine. Alors, vous avez réalisé ces entretiens, donc vous avez collecté du verbatim de nombreuses femmes. Alors, méthodologie, combien de personnes, combien d'entretiens vous avez réalisé, je dis, en collaboration avec l'Association pour l'Initiative Autonome des Femmes, qui est une association toulousaine.
Qui est une association toulousaine qui a été fondée en 1981, qui se situe au centre-ville de Toulouse, en effet. Et alors, pour répondre à votre question, au niveau méthodologique, déjà, j'ai nourri ma thèse dans un premier temps avec toute l'expérience que j'avais en tant qu'accompagnatrice des femmes victimes de violences dans une association qui s'est trouvée à Revel, et qui s'appelait Association ICES. C'est là où j'ai commencé à côtoyer ces domaines d'accompagnement et de suivi des femmes victimes de violences. Et forcément, ma thèse est imprégnée aussi de cette expérience-là. Et ensuite, sur Toulouse, j'ai connaissais déjà l'association APIAF, mais j'ai proposé à l'APIAF d'effectuer ma thèse dans ce terrain de recherche qui était l'association. Et c'est là où j'ai pu mener un groupe de discussions, des ateliers de cartographie, des entretiens auprès des professionnels, des entretiens auprès des femmes. Et en tout et pour tout, j'ai dû rencontrer une trentaine de femmes. Il y a aussi l'association du côté des femmes de Muret, au sein de laquelle j'ai pu aussi mener un groupe de paroles, et j'ai aussi effectué des entretiens auprès des salariés de l'association. Donc, tout cela, avec l'expérience que j'avais au sein de l'association ICES, ça faisait un bon nombre de femmes qui ont participé direct ou indirectement dans ma recherche.
Alors, des thèmes sur lesquels... Alors, j'ai lu votre thèse et quelques contributions intellectuelles de très, très grande qualité, Madame Eva Saint-Martin. C'est passionnant, mais vous pointez vraiment des difficultés, parfois, on peut dire, au XXIe siècle. Ces violences persistent encore, quoi, chez nous, dans un pays développé. Alors, vous dites, la violence physique n'est qu'un aspect des violences conjugales. C'est-à-dire qu'il y a de la violence... psychique forte, on tente d'éliminer la personne et on considère que la femme est vulnérable par nature, c'est ça.
Vous savez, la violence, ça peut être un simple regard. Hein. Pour exercer de la violence, on n'a pas besoin de porter des coups ou d'insulter. C'est-à-dire que la violence, c'est tous ces actes qui vont contraindre l'autre.
C'est sournois.
Et c'est aussi cette ambiance de peur.
C'est-à-dire il y a une ambiance de peur.
Quand une femme a peur, ça veut dire que dans son contexte qui est les siens, il se passe quelque chose qui l'empêche d'exercer son individualité. Et ça, c'est très violent. Donc, et de là aussi la difficulté des femmes parfois d'en parler de ces violences, parce que combien de femmes victimes de violences disent non, mais en fait il a jamais levé la main sur moi. Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez peur chaque fois que la porte s'ouvre? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vos gestes, votre comportement sont conditionnés? Tous ces aspects-là, ce sont des clignotants qui peuvent venir nous renseigner sur la violence.
Donc il y a une sorte de contrôle spatial, vous dites contrôle spatial renforcé. Partout, le regard qui est porté, il y a du contrôle, à tel point vous dites qu'il y a des femmes qui n'ont pas de carte bleue, pas de chéquier, ils doivent rendre compte régulièrement des courses, combien tu as dépensé. Et vous dites que parfois, le seul répit pour ces femmes qui subissent ces contraintes, c'est parfois un refuge. Et le refuge, c'est la salle de bain, c'est les toilettes.
Oui, parfois.
C'est terrible.
Parfois, c'est vrai que c'est intéressant dans l'atelier des cartographies qu'on a mené. Et les femmes partageaient en fait cette même expérience, hein, à savoir que les toilettes pouvaient être les seuls refuges, à condition qu'ils se ferment à clé. Ça, c'était quelque chose très très fort. Hein. Et par contre, au niveau des espaces, alors les premiers espaces qui est contrôlé, c'est les corps. Et on sait bien que les corps, c'est les premiers territoires qu'on habite. Hein. Et les corps, il est contrôlé, il est exploité en tant que force de travail, et il est aussi violenté par des agressions sexuelles qui vivent les femmes victimes de violences au sein du couple. Donc, en effet, les premiers espaces colonisés ou conquis par les conjoints, c'est les corps. Et ensuite, cet espace...
Le corps n'appartient plus à la femme, quoi.
N'appartient plus aux femmes.
C'est ça.
Combien de fois des femmes pouvaient dire « Mais je ne sais plus qui suis-je enfin, ?»
Je n'ai pas d'identité
propre. Je n'ai pas d'identité. Je ne sais pas comment m'habiller. En tout cas, parfois, il faut que les femmes disaient « Il faut que je m'habille d'une telle manière ou d'une telle autre. » C'est-à-dire qu'elles sont aussi expropriées dans sa manière de vivre leur individualité. Et non seulement la mise en scène des corps, mais c'est aussi comment agir. Si elle mange trop vite ou trop lentement, si elle marche dans la rue trop vite ou trop lentement. Il y avait une femme qui disait, par exemple, quand je marche, il faut que je sois derrière lui, par exemple.
Oui.
Donc, ce sont des situations, effectivement... d'une extrême violence.
Alors, vous parlez que cette question du contrôle coercitif dans votre thèse sont issues des travaux qui apparaissent dans les années 70, le contrôle coercitif. Quels sont les auteurs majeurs en sociologie qui ont abordé ces questions-là de l'espace public et privé ? Dans votre thèse, vous faites appel à quelques penseurs qui viennent étayer votre propre thèse.
Alors, c'est très riche, c'est un domaine où vraiment on pioche sans arrêt. Il y a la pionnière sur la géographie du genre qui m'a beaucoup inspirée, c'est Jacqueline Okoutras. Après, il y a d'autres sociologues, géographes qui ont aussi... Et qui m'ont beaucoup inspirée, comme Hancock, il y a aussi Marie-Hélène Lieber, et il y a aussi évidemment Yves Rebaud, il y a aussi Guy Diméon, il y a. Il y a beaucoup de géographes et de sociologues qui, de près ou de loin...
ont abordé cette question du contrôle coercitif. Alors, dans le contrôle coercitif, on peut recourir à plusieurs thèmes. Il y a l'intimidation, il y a la violence émotionnelle, il y a l'utilisation des enfants, tout dans un couple, il y a la violence économique, on vient juste d'en parler, vous n'avez pas de carte bleue, vous n'avez pas d'argent de poche, à la limite, je te donne de l'argent ou pas. Vous êtes isolé, vous n'êtes pas isolé. Recourir à l'intimidation, c'est quoi ? Ça recouvre quoi ? C'est-à-dire que l'homme intimide et fait peur à sa compagne ?
Ça peut être des chantages.
C'est du chantage également.
Ça peut être de culpabiliser la femme. Par exemple, il y avait pendant... Les travaux qu'on avait menés lors de la pandémie, il y avait une femme qui disait « Moi, je pouvais aller au sport à condition... » Enfin, on l'a rencontrée pendant la pandémie, mais elle faisait état de sa situation avant la pandémie. Et c'est là où elle disait « Si je voulais aller au sport, je pouvais le faire, mais à condition que toutes les tâches ménagères soient faites et que les enfants soient déjà couchés. » Sauf que ça arrivait que très rarement, je pouvais pas. Donc finalement, il fallait que je renonce à aller au sport. Et quand j'ai réussi à y aller, parfois, mon conjoint me disait que j'étais une mauvaise mère si je sortais, j'étais une mauvaise mère si je faisais ceci ou cela. Donc cette culpabilité... qu'on fait porter aux femmes, c'est un instrument d'intimidation parce que finalement, les femmes renoncent à déployer leur individualité et renoncent à leur désir pour se conformer à la norme ou au désir du conjoint.
La violence émotionnelle, qu'est-ce que cela recouvre quand vous abordez cette question qu'il y a contrôle coercitif et violence émotionnelle. Comment peut-on jouer des émotions avec une personne pour la rendre dépendante ou pour la maîtriser, pourrait-on dire, quoi ?
Ben, je reviens à la notion de culpabilité.
Culpabilité, c'est avant tout ça.
Je pense que ça a une place très importante dans les mécanismes de contrôle coercitif et ou rendre à l'autre responsable aussi de ce qui se passe, ou responsable de la situation, ou responsable du contexte conjugal, c'est-à-dire que les femmes, elles sont rendues responsables et aussi rendues coulpables. Et ça, ça se joue beaucoup sur les émotions.
Vous parlez également dans vos articles d'une violence localisante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un espace très précis, et dans cet espace précis, ce local qui vise le corps d'autrui pour en déterminer son emplacement, à tel point que dans l'espace, par exemple, on regarde la télévision ou on écoute la radio, dans la salle à manger, dans le salon, il y aurait un espace dédié à l'homme, un espace dédié à la femme. Mmh. D'ailleurs, vous utilisez le verbatim d'une femme qui dit « Mon mari m'a dit « Tire-toi de là ».
Mmh.
Tire-toi de là, c'est hyper violent ça.
Mmh.
Tire-toi de là, c'est-à-dire casse-toi quoi.
Casse-toi, oui.
Casse-toi, voilà, c'est ça. Casse-toi. Quoi. Ta place n'est pas là.
On te déplace.
On te déplace quoi.
Alors, sur les violences localisantes, Marion Tilleuls parlera mieux que moi parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce type de violences et en utilisant aussi tous les outils de la géolocalisation et qui lui ont permis de démontrer comment tous ces outils-là, qui ça peut être dans les smartphones ou les espions qu'on peut mettre dans les applications
de téléphone.
Des téléphones, oui.
Il y a même des mouchards aujourd'hui dans les voitures, c'est ça?
Tout à fait, dans les voitures, mais aussi aussi dans la maison, des caméras, etc. Ce sont des artefacts, ce sont des instruments, en fait, qui permettent de voir à tout moment où se trouve la partenaire et ce qu'elle fait. Donc, en fait, la violence localisante, c'est ça, mais c'est aussi l'effet, comme vous venez de le dire, des ordres au style « va-t'en », je ne vais pas te voir, ou viens ici, ici et maintenant, viens ici, etc. C'est-à-dire que ce sont des injonctions à finalement occuper la place qu'on t'a dit d'occuper.
Alors, et là, je crois, et je suis même certain, en vous lisant, vous avez inventé un concept, peut-être, en tout cas, vous l'avez redessiné, vous dites que les victimes, notamment les femmes, qui témoignent d'une forme de déprise spatiale. Il faudrait nous plonger, pourrait-on dire, dans ce concept pour comprendre ce que vous entendez par déprise, en un seul mot, pour nos auditeurs, la déprise spatiale. Ça consiste en quoi, concrètement?
Alors, dans un seul mot, je ne sais pas si je pourrais vous répondre, parce que c'est un concept assez complexe. Donc, d'abord, la déprise spatiale, ça vient de la sociologie de la vieillesse. C'est pas moi qui l'a inventé. Il y a d'autres sociologues.
Mais vous l'avez adapté, quoi.
Comme Monique Membrado, qui en parlait déjà, à l'université Toulouse-Les Mireilles. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un concept toulousain. Et moi, je l'ai récupéré et je l'ai transféré au monde de la géographie. Et alors, la déprise spatiale, c'est quoi? La déprise spatiale, c'est, la incapacité à habiter les espaces. Ça veut dire quoi, habiter? Habiter, c'est pas occuper un endroit. Habiter, c'est pas tout simplement être dans un lieu. Occuper un espace, c'est pouvoir s'installer, pouvoir circuler, pouvoir se poser, pouvoir travailler, pouvoir projeter ses désirs, pouvoir laisser sa marque d'identité, c'est pouvoir partager avec l'autre, c'est pouvoir attribuer du sens aux actions qu'on mène. Et quand on n'a pas la possibilité d'habiter, quand on est exproprié de cette possibilité-là, ben, il y a cette déprise spatiale. C'est-à-dire, on est nulle part, finalement. Et les femmes victimes de violences conjugales, elles sont une expertise dans cette incapacité ou cette difficulté à habiter un lieu, parce que tout est sous contrôle et elles sont expropriées, en fait. Moi, c'est un mot qui me parle beaucoup, l'expropriation, parce qu'elles sont...
C'est ça, vous dites, la violence s'attaque à la possibilité d'habiter.
D'habiter.
On ne peut pas habiter le lieu. C'est un concept...
très philosophique.
Qui est très philosophique. C'est Martin Heidegger, d'ailleurs, parle... Est-ce qu'on sait habiter le monde ? Là, il y a pour la femme cette impossibilité... d'être, en définitive. Et donc, d'habiter, c'est d'être
tout
réellement dans l'espace.
C'est quelque chose de très ontologique. C'est quelque chose qui touche l'être. C'est-à-dire, si je ne peux pas habiter un lieu, si je ne peux pas être moi ici avec un autre, avec une autre personne, ben, je ne suis pas, en fait. Habiter, c'est être. Et c'est en fait, c'est l'aspect dont les femmes sont empêchées. Et de là, tout ce travail féministe aussi mené par les associations pour restaurer aux femmes cette possibilité d'habiter les espaces privés, mais aussi les espaces publics. C'est-à-dire que accompagner une femme victime de violence par les associations féministes, ça passe par justement les amener vers l'extérieur et nouer des liens avec l'extérieur, avec les mondes de la culture, avec les mondes de la politique, avec cet espace commun. Parce que la société, c'est ça, c'est faire part, c'est faire partie de cet espace commun et de partager avec cet espace commun. Or, si on n'habite pas, si on est dans cette déprise spatiale, finalement, le monde ne nous appartient pas. Et on n'appartient pas au monde non plus.
Et donc, il y a un appauvrissement de la vie, un appauvrissement des espaces de vie, quoi. C'est un monde réduit, quoi.
Ça s'est réduit.
Ça se réduit.
Ça s'est réduit. Il y avait une femme qui disait même, vous savez, j'ai presque du mal à respirer tellement il me manque l'espace.
Pas d'espace, je ne peux pas respirer, donc je n'existe pas. On continuera notre conversation sur l'ensemble des concepts et le verbatim de ces femmes qui subissent des violences, mais je vous propose d'écouter... Julien Clerc, fais-moi une place. Peut-être faut-il faire une place à quelqu'un.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures, je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Ressasse-moi mes souvenirs, je serai jamais éteint, hautain, lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je me ferait tout neuf, tout beau, tout ça. laboureur à toi.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, toujours dans notre studio Gisèle Halimi, en compagnie de Madame Eva Saint-Martin, et nous abordons la violence conjugale et les rapports des femmes aux espaces publics et privés. Très très belle thèse soutenue à l'Université de Bordeaux, et nous faisons le tour de verbatim exprimés par les femmes qui ont subi des violences, et nous parlions de la façon d'habiter cet espace et comment on peut éliminer l'autre de l'espace, impossible de pouvoir habiter. D'ailleurs, vous avez dit exproprier quelqu'un. On est exproprié de soi-même. Pour parler d'espace, il faut parler espace de sécurité et espace d'insécurité. Quand on est dans, on dit, l'habitat, dans le domicile, on peut se sentir dans une totale insécurité. C'est-à-dire que les coups peuvent partir, l'intimidation, les humiliations, voilà. Donc, chez soi, on n'est pas en sécurité. Et toutes les femmes que vous avez interrogées ont montré cela. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui font le nécessaire pour pouvoir mettre les femmes qui subissent vraiment des violences très très fortes, les mettre à l'abri, quoi. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut redonner de la sécurité, quoi.
Oui, tout à fait. Et il faut donner de la sécurité. Alors là, ce que nous, on a pu constater quand on a fait l'étude pendant la pandémie, c'est qu'une des manières de restaurer la sécurité des femmes, c'est en éloignant l'auteur. Et parce que, en fait, quand les femmes sont loin de l'auteur et quand l'auteur ne peut pas venir importuner les femmes, elles s'expriment, elles se sentent bien. Donc c'est quand même un signe qui devrait nous inspirer et qui devrait être pris au sérieux.
Voilà. Alors vous parlez, on parle dans votre thèse, à un moment donné, vous évoquez la fenêtre, une femme qui dit « je pourrais me sentir un peu en sécurité ». À côté de la fenêtre, je me plante, pourrait-on dire, je me positionne dans la fenêtre, parce que dans la fenêtre, je suis pas totalement dehors, mais pas totalement dedans. Quelqu'un peut regarder et quelqu'un peut-être regarder s'il y a des vis-à-vis ce qui se passe chez moi. Mmh. Donc, se mettre à la fenêtre, si c'est transparent, il y a peut-être un peu de sentiment de sécurité, mais c'est terrible ça. Parce que s'il n'y a pas de vis-à-vis, la personne se sent encore une insécurité.
Voilà, s'il n'y a pas de vis-à-vis, les femmes, elles sont davantage renfermées et coupées des autres. C'est sûr que l'idée, c'est comment maintenir ces liens avec les mondes, comment. Et ces liens, ça peut passer par la fenêtre, mais pas toujours. Hein. Ça dépend aussi où on habite, ça dépend les conditions de vie, etc. Enfin, là, par exemple, c'est une femme qui disait, mais pour moi, la fenêtre me permet de regarder à l'extérieur et de m'évader. La fenêtre, c'est ça aussi. C'est un élément qui permet l'évasion, de s'imaginer dans un ailleurs. Et pour d'autres femmes, la fenêtre peut maintenir un contact physique avec l'extérieur et peut-être demander de l'aide. C'est-à-dire que la fenêtre peut avoir différentes connotations, différentes possibilités.
Et on reste debout. Hein. Les personnes que vous avez interviewées le disent, je suis à côté de la fenêtre, mais je me tiens debout. On a l'impression que les personnes-là sont en vigilance totale, quoi. Que va-t-il se passer pour que je puisse réagir, là? Vous voyez, on ne peut pas se reposer.
Les femmes, elles les disent souvent, elles sont...
Il n'y a pas de repos.
Elles sont alertes, en alerte.
On est en alerte, en vigilance.
En vigilance. C'est vrai que c'est un contexte de stress permanent, même quand l'auteur des violences n'est pas présent. Parce que la possibilité qu'il puisse arriver à n'importe quel moment...
Mais même dans la chambre à coucher, vous le dites. Dans le lit, je suis toute seule, mon compagnon rentre, je me sens en insécurité, quoi. Et je ne dors pas.
Voilà, et j'ai mis en place des stratégies. Les femmes, elles sont des véritables stratèges. Il y avait des femmes qui disaient, ben moi, dans la chambre à coucher, je me ferme à clé. Ou j'y vais dans la chambre à coucher une fois que mon mari il est déjà endormi. Ou bien je me couche avant lui, comme ça quand il arrive, ben je dormirai déjà. Ou bien je reste dans les salons, je m'endors dans les salons et sur les canapés et je m'assure qu'il dort dans la chambre pour.
Donc il y a toute une stratégie pour pouvoir demeurer dans le domicile, quoi.
Ben en fait c'est une vie faite des stratégies, des compromis, des négociations, on va mesurer les pour et les contre de chaque action, on va essayer d'anticiper, on va essayer de mettre en place des stratégies de protection. Oui, ce sont des stratèges. On est comment dans une situation de guerre.
Hein. Et il y a aussi un problème de santé. Et vous abordez un chapitre, la violence et la santé, et au-delà des aspects, bien entendu, psychologiques, dépression, etc. Mais certaines disent, j'ai peur d'être empoisonnée par mon mari. C'est-à-dire, voilà, il me sert un café ou il me sert l'apéritif. Donc, vous voyez, la peur d'être empoisonné, c'est terrible de vivre cette peur dans le domicile avec quelqu'un.
C'est incroyable, c'est que les femmes
Et comment peut-on dénoncer ça? C'est terrible de pouvoir dénoncer ça. J'ai la peur d'être empoisonné. Et pourtant, c'est ce qu'elles vivent.
Et pourtant, c'est ce qu'elles vivent, oui. Et en l'occurrence, cette femme qui disait ça, elle a trouvé refuge chez les voisins pendant la pandémie. Parce qu'il faut penser que pendant les confinements, l'espace, il est très restreint. Donc, effectivement, les femmes cohabitent avec l'auteur 24 heures sur 24. Et il y a les aspects de la vie quotidienne qui vont partager. Et là, les repas, effectivement, c'était quelque chose pour elle qui lui faisait peur. Voilà, elle avait l'intuition ou la crainte d'être empoisonnée. Et bon, finalement, elle a fini par chercher refuge chez les voisins. C'est une période aussi, la pandémie, qui a permis à nombre de femmes aussi de trouver de la solidarité chez les voisins.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il... Pendant cette période de la pandémie, terrible pour tout le monde, il y a eu plus de violence conjugale ou simplement la pandémie a été le révélateur des violences qui existaient mais qu'on ne souhaitait pas voir ou que les voisins ne voulaient pas voir.
Je pense que cette période a été plutôt un révélateur de quelque chose qui existait déjà, quelque chose qui était latent. Et il y avait des femmes qui vivaient une sorte de pression conjugale, contrôle conjugal, mais dans la mesure où elles partaient travailler, elles avaient aussi une vie à l'extérieur. Ça faisait tiers. Et elles pouvaient composer avec ces contextes-là. Or, au moment où tout ça s'est arrêté, elles se sont retrouvées face à face l'auteur. Mais ces contrôles qui existaient déjà, ça s'est intensifié. Et en fait, c'est là où beaucoup de femmes ont pris conscience. Elles se sont dit, mais tiens, là, c'est pas ce que j'ai vu. Là, maintenant, je commence à comprendre. Et pour beaucoup de femmes, ça a été un moment où elles ont réalisé en fait que ça allait pas.
Impossible de vivre avec la personne. Est-ce qu'il y a eu plus de séparation ou est-ce qu'il y a eu des personnes? Est-ce que vous avez quelques chiffres ou pas?
Pas des chiffres.
Attendez, c'est pas une question piège. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu plus de plaintes ou pas?
Alors j'aurais pu chercher les chiffres. Oui. Je ne les ai pas ici des mémoires, mais ce que je sais, c'est que pendant la pandémie, évidemment, on sait pas, il n'y a pas eu plus de séparation parce qu'on ne pouvait pas quitter.
Oui, c'était impossible, oui.
C'était impossible. Mais après la pandémie, oui, il y a eu une hausse des séparations et des départs de domicile.
Oui. Et ce sont les associations qui ont accueilli la plupart de ces femmes quand elles partaient du domicile. Ils avaient du mal à trouver quelque chose.
Pendant la pandémie?
Oui.
Alors, pendant la pandémie, les associations ont continué à effectuer leur travail d'accompagnement en distanciel, quand cela c'était possible, évidemment, parce qu'on ne va pas appeler au téléphone la dame si elle habite avec l'auteur, mais quand c'était possible, ils ont maintenu les accompagnements. Pour d'autres femmes, ça n'a pas été possible et il y a eu une parenthèse dans les suivis. Donc, ça a été vraiment cas par cas.
On peut dire que pendant la pandémie, il y a eu de la violence à huis clos.
Il y a eu de la violence à huis clos, oui. Ben oui.
Est-ce qu'on sait, mais encore une fois, peut-être on n'a pas les chiffres, mais il y a eu plus d'homicides ou pas? Non.
Pendant la pandémie, il n'y a pas eu plus d'homicides parce qu'on sait aussi que les femmes risquent plus leur vie au moment où elles partent. C'est-à-dire au moment de la séparation, c'est là où elle risque le plus sa vie. Et pendant la pandémie, il n'y a pas eu de départ. Donc les violences se sont intensifiées, certes. Des prises de conscience ont été prises aussi à ce moment-là pour beaucoup de femmes. Par contre, les féminicides, pendant la pandémie, n'ont pas augmenté.
Vous parlez également dans votre thèse de briser la résistance des femmes. C'est-à-dire que quand on subit des violences, il y a des stratégies pour pouvoir résister, pour pouvoir se protéger. Mais malgré tout, la personne, celui qui est prédateur, là, fait tout pour briser, c'est-à-dire casser la personne, briser les résistances. La personne ne peut pas se défendre.
C'est une guerre de basse intensité qui s'installe dans la relation conjugale et qui mine petit à petit les espaces de la partenaire. C'est-à-dire que ça va se jouer d'une manière progressive. Et petit à petit, les espaces vont se rétrécir. Et petit à petit, l'auteur de violences va gagner des espaces au détriment des espaces de madame. Donc, c'est un contexte où ça s'est réduit, je l'ai dit bien dans ma thèse, ça s'est réduit au bénéfice d'un système total. Où les messieurs, l'auteur, a tout contrôle. Je pense que, pour moi, ça m'a beaucoup parlé, les systèmes totalitaires, parce qu'on est face à ce type de régime politique, dans ce type de conjugalité.
Alors, si vous faites votre thèse et géographie, vous l'avez située dans la géographie humaine, vous le situez dans l'espace. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de violences conjugales aujourd'hui, au XXIe siècle, fin du XXe, au début du XIXe? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que les chercheurs ont travaillé sur ces questions des violences conjugales, de savoir est-ce qu'il y avait un monde qui était meilleur ou est-ce que le monde s'est dégradé? Est-ce que les relations hommes-femmes se sont dégradées dans notre société avec l'apparition de ces violences-là? Est-ce que c'est documenté? Est-ce que les sociologues ont abordé ces questions?
Mais en fait, c'est compliqué, cette question-là, parce qu'en fait, déjà, la violence conjugale, elle est reconnue depuis peu par l'autorité publique, c'est-à-dire que ça devient une affaire d'État dans les années 80. Donc, avant les années 80, c'était pas...
On ne pouvait pas parler de violence conjugale.
C'est pas une affaire publique, c'est une affaire privée.
C'était une affaire privée.
Et or, maintenant, depuis les années 80, on sait que l'État peut s'almisser, peut s'almêler parce que, justement, ça concerne la société. Et pour autant, la parole, elle s'est libérée d'une manière progressive, petit à petit, et entre autres grâce aussi à MeToo et à tous ces mouvements qui rend de plus en plus intolérable ce type d'agissement. Mais voilà, c'est compliqué. Répondre comme ça d'une manière, oui. On risque peut-être de réduire la complexité du sujet, mais il faut dire que c'est un phénomène social qui est rentré dans les sphères publiques très très tard.
Vous connaissez deux pays, vous connaissez la France, vous connaissez l'Espagne, vous avez fait votre thèse en France, mais vous avez fait une partie de vos études à Madrid, une très belle université, Universidad de la Complutense, c'est une des universités majeures dans notre pays. Est-ce qu'il y a une différence, si on essaie de comparer, en tout cas peut-être culturelle, entre les violences des couples que l'on retrouve en Espagne, qui était quand même un pays qui n'était pas exemplaire en ce qui concerne les violences, il y avait de la violence, il y avait des féminicides très très forts, et la France, si vous comparez, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des informations en tant que sociologue sur cette question?
Alors, je ne me suis pas penchée sur la question, non. Je ne suis pas une spécialiste du tout sur l'État espagnol, il y a d'autres sociologues comme Gloria Casas qui parleraient très bien de ces contextes de l'État espagnol. Et alors moi, c'est ce que je peux dire, c'est que en Espagne comme ici, enfin la violence conjugale, c'est un phénomène qu'on trouve dans tous les pays, et qu'en Espagne, on a une loi qui a été très saluée par les mouvements féministes, qui est la loi intégrale en 2004, la loi intégrale sur les genres, sur l'égalité des genres en 2004, qui a permis de faire avancer les traitements de ces sujets-là dans l'État espagnol, qui a permis la construction des tribunaux spécifiques pour traiter les questions des violences des genres, et que depuis, effectivement, il y a eu des améliorations et il y a eu des progrès en ce qui concerne tous ces types de violences. Alors, en France...
En France, il y a eu le Grenelle.
Il y a eu
le Grenelle des violences conjugales. Où en sommes-nous de ce fameux Grenelle des violences conjugales?
Alors, le Grenelle, c'était très intéressant.
Il fallait le saluer quand même.
Il fallait le saluer. Évidemment, c'est super, ce type d'initiative. Alors, il a eu lieu avant les confinements. Si je ne me trompe pas, c'est en 2019, le Grenelle. Voilà, le temps passe vite. Et ça a été un moment fabuleux aussi pour que tous les acteurs concernés se mettent autour des tables à partager, à échanger et à renforcer des liens, des coopérations entre eux. Et c'est vrai que pendant les confinements, beaucoup de professionnels qu'on a retrouvés et qu'on a interviewés nous ont dit que grâce au Grenelle, le travail en partenariat s'est vu renforcé, amélioré. Alors, où on est aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je continue à faire les constats que les femmes meurent et que les féminicides sont toujours d'une triste réalité. Donc, je pense que des efforts devront être poursuivis.
Ils doivent être poursuivis. Dans la Haute-Garonne, si on reste, on ne peut pas parler de toute l'Occitanie, j'imagine qu'il y a dans tous les départements, dans 13 départements, beaucoup d'initiatives, mais en restant sur la Haute-Garonne, peut-être proche de la métropole, il y a beaucoup d'associations qui mettent à l'abri, qui sortent les femmes de ces violences conjugales.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur celles que vous connaissez, avec lesquelles vous avez travaillé?
Bien sûr. Alors, la Haute-Garonne, c'est un des départements qui est le
plus doté, pourrait-on dire.
Ouais. Un des meilleurs dotés en termes d'associations spécialisées dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous avons l'association du côté des femmes à Muret. Nous avons l'association Femmes des Papiers de Saint-Gaudens. Nous avons Parole des Femmes à Gaillard. Nous avons Olympe de Gouche à Toulouse. Nous avons l'association APIAF. APIAF, qui est l'association pour l'initiative autonome des femmes. Toutes ces associations-là sont fédérées au niveau national dans la Fédération nationale Solidarité Femmes.
C'est la Fédération nationale Solidarité Femmes.
Voilà. Ça veut dire que c'est une fédération. Je crois qu'aujourd'hui, il doit en avoir 67 au niveau de tous les territoires français. C'est une énorme fédération qui rassemble toutes ces associations-là, qui les font travailler ensemble. Il y a un grand partenariat entre ces associations-là et qui deviennent un interlocuteur pour les politiques publiques. Parce que il faut pas, enfin, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est voir comment ces associations non seulement sont face à face les femmes victimes de violences, mais en plus, ce sont des courroies de transmission pour que les pouvoirs publics puissent faire avancer les traitements de ces phénomènes sociaux.
Et donc, il y a, si l'on prend l'exemple de l'association pour laquelle vous avez travaillé, Association pour l'initiative autonome des femmes à APIAF, ils ont des appartements, ils ont du logement social ou du logement très social pour mettre à l'abri les femmes pendant un temps court. Alors, quand vous dites temps court, temps long, temps... Vous avez une idée de comment travaille cette association?
Effectivement, c'est une association très ancienne. Je crois qu'elle s'est fondée en 1981. Et c'est une association qui salarie une vingtaine de professionnels actuellement. Et alors, elles sont des appartements en diffus. Ça veut dire que les appartements se trouvent
situés dans l'agglomération.
Voilà, dans l'agglomération. Et les femmes, elles peuvent vivre seules ou en colocation avec d'autres femmes. Et c'est aussi plateforme SIO. SIAO, voilà, pardon. Et parce que il y a SIAO a une porte d'entrée femmes victimes de violences conjugales. Ça, ça a été quand même une conquête des associations féministes. Et puis ensuite, elles font un énorme travail, non seulement d'accueil et d'écoute, comme j'ai dit, elles font aussi un énorme travail et de restauration de la capacité des femmes à habiter les espaces publics, habiter les espaces privés.
Et créer, à trouver leur place.
Créer des liens entre elles et vraiment habiter ce monde qui est le leur.
Voilà. Sortir de cette déprise, là, comme vous dites.
Voilà. Sortir de la déprise spatiale.
Alors, on va aller encore plus loin, mais je vous propose d'aller vers les îles et écouter Mourir d'amour, Mourir d'amour.
Sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor. Morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Eres la luz y en mi anochece. Flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor.
Con frente alta y firmes pasos he de vencer este fracaso, disimulando mi dolor.
Morir de amor.
Morir de amor.
Porque se ha de pecar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con suero. Morir de amor. Morir de amor.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours dans notre studio, Gisèle Halimi, avec Madame Eva Saint-Martin, spécialiste des violences conjugales et surtout le rapport dans les espaces publics et privés. Très belle thèse soutenue à l'Université de Bordeaux. Nous faisions le tour de l'ensemble des dispositifs d'accueil dans la Haute-Garonne et dans la région Occitanie, il y avait quelques-uns. Pour revenir au travail que vous faites au sein de la métropole toulousaine, là vous êtes très investi dans une commission de développement sur ces questions d'espace, pourrait-on dire, d'espace public et privé. Et là, c'est l'espace public. Alors dites-nous.
Oui. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer les CODEF. Alors, les CODEF, c'est les Conseils de développement de la métropole. C'est une assemblée constitutive adossée à la métropole. C'est en fait une assemblée qui se situe à l'interface entre la métropole et la société civile. On est il s'est créé en 2022 un groupe de travail sur l'égalité femmes-hommes dans les espaces publics. Et on est une quinzaine de membres au sein de ce groupe de travail et on est tous et toutes bénévoles. Et c'est piloté par la coordinatrice du CODEF qui s'appelle Clara Henry. Et moi, je co-anime ce groupe de travail avec ma collègue Morgane Percé. Voilà.
Et alors, ça consiste en quoi le travail que vous faites là? C'est-à-dire, vous apportez de la méthodologie comme chercheur en sociologie, vous apportez ensuite un savoir-faire, vous mettez tout ça en forme, vous créez des espaces de contribution intellectuelle.
Alors, c'est un espace très riche. Là, la commande, ça a été de faire un état des lieux de l'égalité pour octobre prochain. Donc, on a commencé à travailler en septembre. On s'est donné un an pour faire un état des lieux de l'égalité dans les espaces publics au sein de la métropole. Comment on fait pour s'y prendre? Bon, déjà, on essaie de centraliser et de faire... d'avoir un aperçu de tous les travaux existants et de tous les rapports au sein de la métropole par rapport à ces sujets-là. Et ensuite, on est en train d'interviewer des expertes sur la thématique. On a interviewé, par exemple, Edith Marie-Jules, qui est une géographe du genre, qui travaille beaucoup aussi sur les espaces publics, mais non seulement, elle travaille aussi beaucoup sur l'égalité à l'école. On a invité Marion Tijoules, qui était ma collègue pour la recherche sur les violences conjugales en période de Covid. Et on a rencontré Madame Escoudier, qui est déléguée à l'égalité au sein de la métropole. Voilà, on a toute une série de rendez-vous, de rencontres pour que notre groupe de travail puisse, en octobre, rendre compte de l'état des lieux au niveau
donc
de l'égalité.
Donc vous ferez un rapport que vous allez transmettre aux élus de la métropole, c'est
ou
ça
en
votre
tout cas,
travail?
En tout cas, on va restituer quelque chose, la forme on va voir, mais il y aura un travail effectué. Et là, pour ce travail-là aussi, on a une autre date, le 31 mai.
Alors, rendez-vous le 31 mai. Alors,
rendez-vous le 31 mai,
il y a quelque chose de très précis. Dites-nous.
Alors, on est très, très contente de cette date. En fait, alors, on a rencontré Domenico Poggi, qui est un géographe, un sociologue, qui travaille à Paris et à Rouen. Elle est fondatrice de l'association À Place Égale. Et cette femme, c'est une experte des recherches-actions au niveau des marches exploratoires pour les droits à la ville. Voilà, la devise, c'est les droits de tous et de toutes à la ville. Et quelles que soient les caractéristiques sociodémographiques des personnes, enfin, femmes, hommes, mais elle s'intéresse beaucoup aussi aux seniors, par exemple. Et donc, elle, sa question, c'est comment promouvoir les droits à la ville pour tout le monde. Et on l'a invitée, on souhaite la faire venir, donc avec en partenariat avec l'ITS Erasme et les CODEF. Et on va organiser une grande journée le 31 mai à Toulouse au centre où on va mener des marches exploratoires avec des étudiants, des étudiantes d'Erasme, des habitants, des habitantes de Toulouse et des associations qui souhaiteront bien s'associer à nous afin de recueillir des infos, des données et ensuite venir alimenter notre état des lieux au sein du CODEF. Et du côté d'Erasme, ça participe de la formation des travailleurs sociaux. Parce qu'à Erasmus, on a le module. Là, ce sont mes collègues de la filière éducateur spécialisé qui parleraient mieux que moi. Mais dans la filière éducateur spécialisé, il y a le module d'approfondissement sur les territoires avec la Croix-Rouge. Donc, c'est un module très conséquent où les étudiants sont initiés à travailler sur les enjeux territoriaux et les rapports sociaux qui ont lieu au sein des territoires. Et donc, la journée du 31 mai vient au profit non seulement de la formation des travailleurs d'Erasmus, mais aussi au profit des CODEF. Parce que l'idée, c'est quand même... On a plein de ressources au niveau de notre territoire à la métropole. Et l'idée, c'est d'unir justement nos ressources et faire converger nos enjeux au bénéfice de tout le monde.
Alors, vous avez travaillé, vous avez dit nos étudiants travaillent à l'Institut du Travail Social Erasmus. Et est-ce que vous apportez, vous parlez qu'il y a plusieurs filières, mais en ce qui concerne les violences conjugales et votre spécialité géographie humaine et sociologie sur ces aspects-là, vous développez des modules spécifiques, il y a des conférences spécifiques sur ces questions-là pour sensibiliser davantage les futurs travailleurs sociaux et... ou pas
Alors, oui.
Est-ce que ça rentre dans le référentiel de formation Parce que souvent, on a l'impression que les travailleurs sociaux vont peut-être aller pour les maisons d'enfants à caractère social, les IME, le cognitif, le handicap, mais ils abordent aussi les questions d'adultes, quoi. Hein, c'est l'urgence. Et vous avez, comme vous avez dit, dans l'association APIAF, des travailleurs sociaux, des psychologues, j'imagine, qui travaillent avec des adultes. Donc, quelle est votre approche et qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, étant la spécialiste en la matière?
Enfin, spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, dans les formations de travail social, on ne peut pas faire l'économie de ces types de contenus. C'est-à-dire qu'on est des êtres construits socialement avec une norme genrée, c'est-à-dire qu'il y a la question de la féminité, de la masculinité qui nous traverse tout un chacun. Et les actions, l'implication professionnelle n'est pas neutre. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, nos actions peuvent avoir un impact sur les personnes accompagnées. Et cet impact-là, parfois, va du côté du renforcement des inégalités. Parce que si on ne réfléchit pas avec les lunettes du genre, si on ne se pose pas la question de où on en est par rapport aux inégalités des genres, l'inertie fait qu'on peut renforcer encore plus les inégalités existantes. Donc on se doit effectivement de se poser la question de comment on est construit. Et qu'est-ce que ça dit de ma place et de la place des autres dans le travail social et comment on peut faire pour promouvoir quelque chose d'égalitaire hein. Et donc on mène des contenus de formation et sur déjà la notion des genres, c'est quoi les genres hein, et depuis quand ça existe hein. Et à quoi ça peut nous servir en tant que travailleurs sociaux. Et ensuite, on mène aussi des contenus sur les violences faites aux femmes.
Les jeunes étudiants sont sensibles à ces problématiques? Vous direz oui, mais...
Elles sont sensibles, les jeunes générations...
Ou intéressées vivement, ou plus militants, je ne sais pas, j'essaie de qualifier cette génération.
Elles sont sensibles, elles réagissent, pourquoi? Parce que...
Vous me dites, elles réagissent, les garçons, ils ne réagissent pas? C'est très genré,
alors,
ce que vous venez de dire.
Déjà, les formations de travail social, c'est très féminisé. Donc, parfois, on est avec un public très féminisé et les garçons, ils sont une minorité, mais il ne s'agit pas de questionner, il ne s'agit pas de porter une lecture fille ou garçon. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça. Et on parle de la norme du genre et qu'est-ce que cette norme nous dit de ce que c'est être un homme et qu'est-ce que cette norme nous dit de ce que c'est qu'être une femme. Parce que la norme du genre, elle peut être oppressive à l'égard des garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es un garçon sensible, qui aime la danse classique ou autre, ben, tu peux être les sujets ou la cible aussi de moqueries, d'harcèlement. Donc, ce n'est pas fille ou garçon, c'est la norme. Donc, et cette norme-là, il convient de la rendre visible, de voir ce que cette norme fait de chacun et qu'est-ce que nous on fait de cette norme-là. Et donc on essaie avant tout de rendre les étudiants, les étudiantes critiques. Déjà les intéresser enfin, et puis qu'ils puissent avoir un positionnement critique par rapport à ça parce que ce sont des acteurs sociaux.
On arrive au terme de notre émission. Vous avez vu, Madame Eva Saint-Martin, ça passe très très vite et vous avez dit beaucoup de choses. Question plus personnelle, une licenciatura, un bac plus, dans l'équivalent d'un master à l'université de Madrid, Complutense, et un DESS, Jean Jaurès, ensuite une thèse en 2019. Vous avez envie de vous préparer à une HDR, habilité à diriger des recherches? Qu'est-ce que c'est dans vos projets? Je dis très très personnel comme question. Quelles sont aujourd'hui dans la recherche future ce que vous avez envie de faire?
Alors, moi, j'aime beaucoup être en mouvement et ce qui m'attire beaucoup, c'est la recherche-action. J'aimerais participer à des projets concrets qui portent sur tous ces aspects de la géographie du genre et afin de faire bouger les lignes. Et cela implique évidemment et garder une veille intellectuelle. Donc, j'aime pas m'enfermer. J'aime beaucoup mon rôle de formatrice et l'enseignement, la transmission. Mais à côté de ça, j'ouvre toutes les portes pour participer à des projets. Actuellement, c'est l'éco-dev, mais il pourrait en avoir d'autres projets.
Y compris, là, vous travaillez avec des institutions, il pourrait y avoir des entreprises privées qui peuvent vous solliciter en disant, tiens, je dis comme ça, hein, c'est peut-être un appel, Airbus, ingénieurs et ingénieuses, est-ce qu'on peut mener une recherche sur la place des ingénieurs et des femmes ingénieures au sein de cette belle entreprise qui est Airbus? Est-ce que, par exemple, de la recherche d'action comme ça, ça vous intéresserait? Pourquoi pas?
En fait, la question du genre, on peut l'amener dans n'importe quel terrain et c'est toujours nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui pourrait évidemment s'envisager.
Si vous êtes sollicité, vous êtes prêt à l'étudier?
J'étudie tout.
Vous avez des articles en production, très bientôt un nouvel article, une nouvelle conférence.
Pas pour le moment.
Non,
pas pour le moment.
Ça va arriver. Ben, écoutez, ça Madame Eva Saint-Martin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Sentinelle d'Humanité. Merci beaucoup de nous éclairer et je vous renvoie vers tous les travaux. D'abord, la thèse qui est disponible, bien entendu. Il y a des sites, il suffit de taper Eva Saint-Martin, vous pouvez retrouver tous les articles, les contributions intellectuelles. Et je vous renvoie également, chers auditeurs et auditrices, à l'espace du genre et violence conjugale. Très belle publication aux presses universitaires de Vincennes. Tout ça est disponible. Je vous souhaite une très belle lecture pour des choses qui sont, bien entendu, importantes. Aujourd'hui, au 21e siècle, notre société demande plus de fraternité.
Et de sororité.
Merci beaucoup et à très bientôt, chers amis.